Brown, Angelique Kidjo pour un hommage à Myriam Makeba, The Mahotella Queens, Diana Krall, Nora Jones. Et sur France Inter, en direct du 5 au 9 juillet, de 22h à minuit, Summertime, d'Elsa Boublil. Renseignements, franceinter.com. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sarkozy trouve inacceptables les propos d'Anelka.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'habite en Lozère, je me défoule souvent auprès de vous. Voilà, c'est le football qui m'énerve aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, du reste. Quand on voit les millions d'enfants de par le monde qui prennent comme exemple les joueurs de football, et quand on voit l'exemple que donnent ces mecs, hyper super payés, trop payés, archi payés, c'est dégueulasse. Ils ne sont bons qu'à proférer des insultes racistes vis-à-vis des péripatéticiennes. Monsieur Anelka aimerait certainement pas qu'on le traite de je sais pas quoi, une injure raciste parce qu'il est pas blanc. Et il traite les gens de fils de pute. Et il croit que c'est bien pour les petits-enfants qui regardent le foot. Et du reste, les putes, ils aiment assez les fréquenter quand on voit ce que ça leur coûte. Ça me dégoûte.
J'écoute l'émission là qui a lieu à la BBC avec Nicolas Demorand et une personne a posé la question, un Anglais, pour savoir ce que le général de Gaulle penserait de la France d'aujourd'hui. Bien évidemment, tous ces messieurs bien élevés n'ont pas osé répondre. Alors moi, je vais vous le dire ce que le général de Gaulle nous dirait aujourd'hui s'il voyait notre France. Il dirait « Française, Français, aujourd'hui, c'est la chienlit. Alors, faisons une révolution pour secouer tout ce bling-bling de nos gouvernants et revenir aux valeurs des peuples. Respectons toutes ces Françaises et ces Français de la France d'en bas. Et rendez-vous le 24 juin dans la rue. »
Ce matin, les éloges du général de Gaulle, bon, éloges mérités en un temps, mais le général de Gaulle était bien au pouvoir le 17 octobre 1961. Il était bien au pouvoir quand M. Maurice Papon était préfet de police avec tous les excès qu'on connaît. Alors, bien sûr, le 18 juin, mais il y a eu le reste aussi. Et le dire peut-être.
Bonsoir, je suis malheureux, je viens de perdre mon père. Mon père, pense parce que c'est le 18 juin aujourd'hui, il est rentré en résistance, il avait 15 ans, il a été grièvement blessé à 18 ans, et c'est un autodidacte, quelqu'un que j'aime beaucoup, et je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était un vrai résistant, un résistant comme il en existe peu. On parle de beaucoup de gens comme Jean Moulin, mais il y a des gens comme lui qui se sont battus, qui ont payé de leur sang et de leur chair la liberté qu'on a le droit d'avoir aujourd'hui.
Je viens d'entendre Sarkozy ce matin qui disait que sans l'appel du 18 juin, il y aurait eu malgré tout des résistants, mais il n'y aurait pas eu la France libre. Et il a osé dire qu'il n'y aurait pas eu le Conseil national de la résistance. Cet enfoiré a pu dire qu'il n'y aurait pas eu le Conseil national de la résistance.
Pom 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 pom, pom 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 pom, ici Radio Londres. Eh ben, je vais vous dire un truc, heureusement que Nicolas Sarkozy était là pour écrire la fameuse allocution radiodiffusée de Gaulle, parce que le grand Charles, il n'a rien pu faire tout seul. Eh oui, c'est Nicolas Sarkozy, bien avant d'avoir cassé le mur de Berlin, qui était parti en éclaireur devant Charles de Gaulle. À Londres, il en avait même parlé avec Sir Winston Churchill. Il lui avait dit « Je vais vous envoyer notre meilleur général ». C'est normal donc qu'il aille à Londres dévoiler une plaque commémorative du 18 juin, quoi.
Française, Français, en 25 ans, 10% de toute la richesse produite chaque année en France est passée des travailleurs au capital. Aujourd'hui, chaque année, cela représente 200 milliards d'euros par an, soit 5000 euros par travailleur et par an. Alors le 24 juin, vous savez ce qu'il vous reste à faire et à exiger. C'était Jean-Yves, parfait.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Lamentable. On nous rebat les oreilles avec les aventures sexo-frico-starisées de 11 gars qui ne savent même pas courir derrière un ballon. Les gosses de mon quartier font ça pourtant très bien. Foutez-nous la paix avec ça. Parlez-nous des vrais problèmes des Français. Mais j'allais oublier. Le spectacle n'est pas qu'en Afrique du Sud. Même chose en France, à Paris, à l'Élysée et dans les palais des ministères. Pas de coach, pas d'esprit d'équipe, pas de sens de l'honneur. Chacun tire la couverture à lui, veut être sur la photo à la meilleure place, sans mettre un maximum dans les poches. Et si une question est posée, il répond à côté, quand il daigne répondre. Allez, au revoir tous, courage. Et puis au 24, la manif, elle doit être monstrueuse.
Bien, eh bien, on va faire le nécessaire. Merci à tous et à toutes pour ces messages, de très nombreux messages, suite à deux émissions de la semaine dernière, avec Éric Lepage d'une part et d'autre part avec Annie Lacroix-Risse, qui vous a passionné, qui nous a valu des, à la fois des encouragements, mais des remontrances aussi sur cette l'analyse que cette historienne fait des années 30. Passionnant en tout cas, merci à tous. Aujourd'hui, on va continuer dans l'esprit de la résistance et on va aller place de la Bastille. Eh oui, en avance sur les festivités du 14 juillet, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. D'abord, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je suis proviseur au lycée de Nemours et nous sommes actuellement en plein combat pour mettre fin à la vase des proviseurs. Le premier n'est resté que quelques mois. Le second, qui était à la retraite, a été rappelé d'urgence dans l'année. Le troisième, arrivé en avril, s'est investi dans sa tâche et nous avions enfin retrouvé stabilité et enthousiasme. Or, on nous avait promis qu'il resterait là la rentrée prochaine. Et le 1er juin, on apprend qu'un quatrième proviseur le remplacera. Nous sommes tous accablés par cette nouvelle. La communauté éducative vient donc de décider d'occuper le lycée lundi prochain, 21 juin.
Bonjour, c'est Fabien de Toulouse. J'appelle par rapport à un collectif de défense des conventions collectives du secteur médico-social et social. Voilà, juste pour dire que M. Sarkozy, en 2016, voulait réduire le nombre d'associations. Il a mis en marche son projet. Le service public qui regroupe le médico-social et le social est en train d'être attaqué par l'ultralibéralisme. Il va être vendu et donné en pâture aux patrons, comme ont pu être donné en pâture les maisons de retraite. Merci de diffuser au plus large, Daniel. Merci.
Alors, le Café Repère de la Bastille-Jissus de Mirepoix, en Ariège, vous invite aujourd'hui, lundi 21 juin, à partir de 18h30 et à la salle de la CES, c'est-à-dire en face de la crèche, dans la rue du Maréchal Joffre, à ce qu'on se réunisse pour parler de l'université populaire que l'on veut lancer sur Mirepoix et sa région.
Bouge pas, on est là, c'est à la Bastille que ça se passe, le piqué des piqués, on est là, et on va gagner au bout de 8 mois de grève, ça va payer mes frères.
Merci, c'est nous qui vous remercions encore, vous nous suivez partout, vous nous encouragez. Dès qu'on regarde de tous les coins, on regarde les Français qui nous soutiennent pour dire qu'il faut continuer, il faut demander vos droits, donc on vous remercie aussi.
C'est primordial ce que vous faites aujourd'hui pour rappeler comme ça à la République française qu'il faut savoir se battre pour la liberté, hein, et qu'aujourd'hui vous êtes là pour justement rappeler qu'en 1789 il y avait des Français courageux qui ont réussi à abattre la monarchie pour créer une république qui aujourd'hui des fois a du mal à respecter les droits de l'homme, quoi.
Ouais, mais tu sais, et c'est quelque chose quand même. On sait que pour être digne, il faut se battre. Bon, nous aussi, on essaie de gagner, on essaie de trouver notre dignité en fait.
Voilà. On vit ici, on va rester ici, on teste nos droits, pas comme ça seulement. Nous, on est colonie française, ancienne colonie française. Bon, il n'a qu'à nous régler nos droits, on a droit ici. Donc, on ne peut pas nous laisser comme ça.
On va ici, on vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses, par papier. On va ici, ici, on reste ici. Régularisation.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. On bosse ici, on vit ici, on reste ici, avec les travailleurs sans papier et Antoine Chao.
Tous ensemble, tous ensemble, oui, oui.
Il y a tout un cortège de travailleurs sans papier avec des drapeaux de la CGT qui courent sur le autour de la place de la Bastille et qui montent l'escalier de l'Opéra Bastille.
ne bougeons pas d'ici tant que nous n'avons pas ce que nous voulons, c'est-à-dire des critères objectifs pour la régularisation de l'ensemble de tous les travailleurs et les travailleurs sans papier. On restera sur place, on reste ici.
Alors, il y a une grande délégation des travailleurs sans papier sur tout l'escalier qui ont pris place dans, sur l'escalier de l'Opéra Bastille et qui occupe la plus grande partie de l'escalier. C'est pas la montée des escaliers à Cannes. Ça va pas faire plaisir. À qui?
Ah, président, monsieur Fillon, monsieur Besson. Et quand je vais de l'autre côté, à Mme Bachelot, regardez sur au pied de la statue de la Bastille. Et la colère va monter, vous allez voir.
Après les deux séances de négociation que nous avons eues avec le ministère de l'Immigration et le ministère du Travail, les choses maintenant sont claires. Les critères sont clairs. Et il faut maintenant que le ministère de l'Immigration fasse son texte pour la régularisation des travailleurs sans papier. Au nom des 11, nous avons décidé de rester sur ces marches de l'Opéra, de la place de la Bastille, jusqu'à la rédaction du texte. On ne bouge plus. On passe ici. On vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs, de tous les travailleurs sans papier.
On restera sur place, on reste ici. On est déterminé à rester. C'est fini l'exploitation des travailleurs sans papier. Parce qu'ils nous exploitent, on est les travailleurs sans droit. Alors, on n'avait plus de travailleurs sans droit dans ces pays-là.
Courage!
Huit mois qu'ils sont en grève, les travailleurs sans papier, depuis le 12 octobre 2009. 8 mois de conflit qui se termine, attention à ce mot terminé, mais en tous les cas qui connaissent un répit avec une victoire, mais là aussi restons vigilants, une victoire obtenue vendredi dernier au terme de 3 semaines d'occupation des marches de l'Opéra de la Bastille, place de la Bastille à Paris. Ils ont décampé ce vendredi 18 juin, mais sans avoir obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais beaucoup de ce qu'ils réclamaient suite aux négociations entre le gouvernement et les syndicats, et les 11, c'est-à-dire syndicats, associations et mouvements divers. Le gouvernement a accepté des ajustements par rapport à la circulaire du 24 novembre, des ajustements. Nous revoilà avec le mouvement des travailleurs sans papier qui a commencé en 2008 avec une grève et des occupations qui ont repris en octobre 2009. Ces travailleurs sans papier, vous le savez, travaillent bel et bien dans un certain nombre de secteurs, le nettoyage, BTP, restauration, confection, aide à domicile. Quand je dis restauration, il se peut tout à fait que le ministre de l'Immigration ou le ministre du Travail invite des amis à dîner dans un bon restaurant et que la cuisine qu'ils mangent soit faite en cuisine par des travailleurs sans papier qu'ils répriment et qu'ils cherchent à renvoyer dans leur pays. C'est une contradiction et une hypocrisie qui n'en finit pas, que tout le monde a fini par comprendre, dont tout le monde a fini par comprendre la dimension, et peu à peu, de manif en manif, d'échec en réussite, en mobilisation, les choses font leur chemin. C'est ça qui nous intéresse. Mais vous savez, on a passé un week-end très tendu. Oui, je dois vous le dire, un week-end très tendu. L'équipe de la Bastille, j'y suis. depuis ce vendredi 18 juin que nous avons passé à Londres avec cet hommage vibrant et unanime à la résistance. On s'est dit, ça y est, enfin, c'est formidable, c'est cette unanimité. Tous ces gens vont rentrer en résistance là dans les heures qui viennent. Sinon, cette commémoration, ce serait du vent, ce serait de la com, ce serait du pipeau. Alors, bien sûr, entrer en résistance, c'est pas forcément le maquis, c'est pas forcément le Vercors, c'est pas forcément la fiche rouge, mais enfin, il y a quand même des raisons, il y a quand même des causes de résister, de se battre. Je sais pas, le chômage, la destruction des acquis sociaux, les inégalités, l'environnement, les privilèges exorbitants des élites, etc. C'est pas les causes qui manquent. Au moins, une résistance contre cet esprit de collaboration. Eh bien non, ce matin, il a fallu constater qu'il n'y avait aucune suite et qu'en fait, tout ça, ça comptait pour du beurre. Tout à fait. Ce beurre que les collabos vendaient au marché noir. Et marché noir, ça me donne une excellente transition pour comme titre à ce que nous allons entendre aujourd'hui, Marché Noir, pour parler des travailleurs sans papier en lutte. Marché Noir, mais en fait, il y avait quand même pas mal de Chinois aussi qui se sont joints à ces travailleurs sans papier, qui n'ont pas cessé de répéter « on bosse ici, on vit ici, on reste ici ». Et ça s'est passé où tout ça? Je vous le disais en commençant, sur les marches de l'Opéra de la Bastille, c'est-à-dire place de la Bastille, la résistance était ici, c'était pas la peine d'aller à Londres, c'était là. Et qui résiste? Eh bien, ce sont les descendants des travailleurs, des tirailleurs sénégalais et de la force noire de jadis. Ce sont donc ces Africains, pour l'essentiel, qui luttent et qui résistent et qui ont gagné, même si le combat continue. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. On bosse ici, on vit ici, on reste ici.
Tous ensemble, ouais! Ouais! Emploi, salaire, retraite, régularisation!
Au pays du mal-être, les mots de ma lettre sonnent, ta fenêtre résonne, pénètre. C'est moi, le petit nègre, tu dois me reconnaître. J'ai fait des kilomètres, envahi le périmètre. Exodus, no limit, very hot, so wicked. Babylone, politique, en tout cas, ça nous pique. Africa, c'est la guerre, famine, misère. Et la vie coûte cher, let's go, d'une allée.
I bet you.
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Traoré Mahmoud.
J'étais là hier.
Le 27, quand vous avez investi les escaliers, là.
Ah oui, d'accord. Bon, ça fait 24 heures qu'on est là, on n'a pas eu de résultat, donc on attend jusqu'à ce que nous donne une bonne réponse favorable.
Et vous, vous avez passé la nuit ici?
Bon, on a passé, tout le monde a passé la nuit ici. On est là, on ne bouge pas, on est là jusqu'à ce qu'on tienne, on obtienne notre but, quoi. Ça fait 8 mois qu'on est en train de faire une très chère solution, on n'a pas trouvé jusqu'à présent.
8 mois de grève, mais depuis quand vous êtes en France?
Ben, celui-là, il y a à peu près 7 ans. Sans papier, comme tout le monde, et voilà.
Et vous avez travaillé en quoi, dans quel genre de chantier?
Ben, je suis cariste, j'ai fait la sécurité, j'ai fait le bâtiment aussi. Et il y en a pas mal qui travaillent dans le bâtiment et puis dans les restos.
Vous avez quel âge, vous?
Bon, moi, ça me fait 27 ans, je suis là maintenant.
27 ans?
Je dis 27 ans, oui.
Et vous venez de quel pays?
Ben, je viens de Mali. Et puis après, on verra.
Mais vous attendez quoi? Une régularisation?
Bien sûr, pour tout le monde.
Mais de tous les sans-papiers en grève?
Tous les sans-papiers et toutes les sans-papiers qui travaillent en France ici, monsieur.
160 sans-papiers au total qui occupaient depuis une semaine les marches de l'Opéra Bastille à Paris.
France Inter, 3 juin 2010.
Évacués ce matin par les forces de l'ordre, il ne reste plus sur les lieux que des couvertures et des sacs de couchage. Les sans-papiers réclamaient des critères clairs de régularisation par le travail. L'évacuation a eu lieu dans le calme, il n'y a pas eu d'interpellation. Selon la police, en revanche, selon des témoins, il y a eu des jets de gaz lacrymogène et quelques blessés légers. Un membre de la CGT soutient de ce mouvement affirme de son côté qu'il y a eu 30 interpellations. La préfecture de police fait savoir que ce rassemblement sur une des places les plus fréquentées de la capitale entravait la libre circulation.
On est lundi 7 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été délogé des marches de l'Opéra?
Je suis venu, il a dégagé tout le monde ici. Bon.
Vous avez été délogé, mais vous avez décidé de continuer ici au pied de l'Opéra?
On ne dégage pas, parce qu'on a droit. Hein. Moi, je travaille ici 10 ans.
Dans le bâtiment?
J'ai fait tout. Il y a les gens qui travaillent dans l'amiante, il y a les gens qui travaillent dans les plombs. Moi-même, j'ai travaillé dans les plombs pendant 3 ans. En 2007, 2008, 2009, j'ai travaillé dans les plombs. Est-ce que tu veux avoir des Français comme ça, ils vont accepter de travailler dans les plombs? Parce qu'on fait ça, on n'est pas de soi, parce qu'on n'est pas de papier. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui sont morts à cancer à cause de l'amiante. Tout le monde sait ça déjà. On voulait trouver ce papier-là pour faire aller-retour au pays, pour aller voir les familles. Nous, on a les pères, on a les femmes, on a les enfants, on a les frères. Cet papier-là, on lit à côté de ça. Si tout le monde tient son papier aujourd'hui, à l'endemain, je crois que la recette des références va vous monter plus. Comme ils ont dit que les références sont en rouge, donc il faut nous donner les papiers, on fait aller-retour en Afrique.
Donc c'est une bonne solution pour renflouer les comptes d'Air France.
Voilà, tout à fait. Tous les gens qui sont ici, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde, on attend. C'est les petits papiers qu'on attend.
On est digne. On est digne, c'est nous. On est digne ici. Tu ne vois pas aucun Africain ici qui fait des délinquances, et surtout particulièrement nous, les Maliens. On est là juste pour travailler. Nous sommes pays sahéliens. Les pays sahéliens qui ne pleurent pas là-bas. Tout le monde veut vivre chez lui, dignement, sans venir faire des misères à notre endroit. Par exemple, les patrons profitent, mais le gouvernement aussi profite. Justement pour ça, on veut que ça cesse. Et ça va cesser ici. Quoi.
La place de la Bastille, ça représente quoi pour vous?
Ça représente un grand symbole pour nous. Pour nous, c'est la raison pour laquelle on est ici. On sait que c'est une grande place. Si on n'est pas venu ici pour rien, on est venu parce que c'est un grand symbole, quoi. Ça présente toute la fierté de Paris et France même. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci. Colonne de Juillet, place de la Bastille. Au centre de la place de la Bastille, la colonne de Juillet a été édifiée sur ordre du roi Louis-Philippe pour célébrer la mémoire des morts des Journées des Trois Glorieuses de juillet 1830. Les corps des victimes sont enterrés dans le soubassement de la colonne. Elle est surmontée d'une statue de bronze dorée représentant le génie de la liberté, réalisée par Auguste Dumont. La colonne remplace la maquette de l'éléphant de la Bastille qui se trouvait là auparavant, mais dont la construction n'avait jamais pu être achevée faute de moyens.
Je m'appelle Diallo Adama, je suis délégué, on est gréviste. On est là, place de Bastille. Maintenant, depuis le moment qu'on est là, ça fait 15 jours maintenant, on est là. On n'est pas découragé, on va aller jusqu'au bout. quel que soit qu'il arrive, on s'en fout, mais on va aller jusqu'au bout. C'est très clair.
Et Diallo, ça représente quoi pour vous, la place de la Bastille?
On est soit si révolutionnaire ici, parce qu'il y a beaucoup de révolutionnaires avant 1800 ou 1700 qui sont passés ici, ils massacrés, ils sont morts, ils ont perdu leur vie. Tout ça, c'est grâce, ils sont révolutionnaires de quelque chose. Nous aussi, on est soit si ces palaces-là pour qu'on maintenir notre combat, ça doit terminer ici. C'est notre piqué ici. Il faut qu'ils attendent ça, il faut qu'ils comprennent ça. C'est la réalité que tout le monde demande. Bah, on est là, ça fait 10 ans ou 20 ans ou 40 ans, on est là. Ce qu'on demande seulement, c'est les papiers qu'on demande aussi au niveau du gouvernement, parce que l'exploitation aussi, c'est entre eux que ça marche. Mais je trouve la réalité, est-ce que France, droit de l'homme qui on parle ici, parce que même aujourd'hui, si on parle, sauf la France entière, peut parler, là, ma voix, ça a sorti partout, mais la télé, même, on sait très bien, le gouvernement fait des mascarades, il ne veut pas que même on parle ça dans la télé, parce que c'est le falas qui dit, il y a 100 papiers qui sont là-bas, voilà, ça arrête là. Travaille, ferme ta gueule, dis rien.
Voilà, les travailleurs sans papier sur la place de la Bastille, sur les marches de l'Opéra de la Bastille face à la colonne de Juillet qui, faut-il le rappeler, évoque le passage de la monarchie à la monarchie constitutionnelle. La révolution, ce sera 1848 où la République, cette fois, s'installera plus durablement. Mais voilà ce que évoque cette colonne de Juillet surmontée du génie de la Bastille. C'est que cette place évoque, bien sûr, avant tout, c'est la prise de la Bastille par les Parisiens, dont il reste très très peu de traces et très peu d'indignation. Oui. Espérons que cette indignation continue. En tout cas, elle est là, elle est bien présente dans les propos et dans la tête et dans le cœur et plus que ça encore de ces travailleurs sans papier qui luttent depuis des années maintenant pour obtenir des droits et là qui ont fini par obtenir à travers les négociations entre les deux ministères de l'immigration et du travail et les associations et syndicats réunis dans ce qu'ils ont appelé le groupe des 11, que la circulaire Besson d'octobre dernier soit révisée. Elle ne sera pas modifiée, mais elle aura des modifications qui faciliteront les choses et qui les rendront plus claires. Bon, c'est pas encore aussi clair que ça, aussi net que ça, mais ce siège de la Bastille donne quand même la voix et donne de l'espoir à ceux qui se sont mobilisés, parmi lesquels Raymond Chauveau de la CGT qui est l'un des porte-parole de cette lutte depuis plusieurs années.
Alors Raymond Chauveau, on s'est croisé à maintes reprises sur cette place de la Bastille. Alors il était question d'un rendez-vous au ministère, qu'en est-il ?
Bon, mais dans un processus de négociation, on n'est pas encore à terme puisque doit intervenir une nouvelle réunion vendredi 18 juin. Là, les ministères doivent nous remettre un texte, texte que nous demandons déjà depuis le 1er octobre concernant les critères de régularisation qui seraient retenus pour permettre la régularisation administrative des travailleuses et travailleurs sans papier.
Alors c'est une lutte de longue haleine, c'est de la haute lutte, comme a été la prise de la Bastille il y a plus de 200 ans. Mais est-ce que Raymond, on peut revenir sur ces 3 années de lutte déjà pour régulariser ces travailleurs sans papier ?
Un peu plus, puisque 15 avril 2008, aujourd'hui 8 juin 2010, avec des antécédents du Buffalo Grill ou Deluxe. Bon, effectivement, c'est une lutte de longue durée, longue haleine. Mais en même temps, je pense qu'à travers tous ces mois et ces mois et ces mois, la démonstration a été faite que ce n'étaient pas des étrangers qui vivaient au crochet de la sécu ou des allocs, ou etc., comme la propagande raciste et xénophobe peut le développer, mais c'était effectivement des travailleurs qui sont dans la restauration, qui dans le bâtiment, qui dans le nettoyage, etc. quoi. Donc c'est vraiment une population travailleuse qui est sans droit, parce que sans titre de séjour, et qui est bien souvent exploitée, surexploitée parce que sans droit. Donc l'image a changé. Et maintenant, si on permet à ce que ces travailleurs-là puissent être reconnus pour ce qu'ils sont, à savoir des travailleurs, et qu'ils aient effectivement ce statut. Et donc, ça sera bon de toute façon pour eux, ça c'est clair, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs et des salariés de ce pays, en mettant un frein à ce dumping social encouragé par tous ces patrons voyous, quoi. Le piquet des piquets, comme on l'appelle, le piquet des piquets, ça fait les pics de 1789. Mais nous maintenons le piquet des piquets jusqu'à la fin des négociations et jusqu'au texte, ça c'est clair. faut que le gouvernement aille vite parce que tout
c'est
temps
bientôt
perdu,
le 14 juillet. Et ouais.
Oui, c'est surtout tout temps perdu, c'est du temps au bénéfice de ces patrons voyous qui rechignent encore à avancer dans la régularisation, contrairement à d'autres qui ont été obligés de se rendre au fait et de dire, bah, effectivement, ces travailleurs sans papier, c'est une réalité économique et sociale et on règle pas une réalité économique et sociale à coup de matraque et de gaz lacrymogène. Donc, bienvenue sur le piquet des piquets en soutien avec la résistance.
كنت مهني في بلادي دافي جيت الجدي ما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافيا
Tous les matins, 4 heures tapante avec la pelle sur le chantier. Ramper, supplier le patron de m'exploiter. Voilà 6 ans que je galère en m'esquintant la santé. 6 ans d'humiliation et toujours pas ce bout de papier. Travail au noir, rester cloîtré, mon quotidien est un calvaire. Déprimé, fatigué, des courses poursuites dans le RER. L'effet de l'alcool ne calme même plus mes douleurs. Mon stress, mes cauchemars, mes angoisses et mes peurs. Pour vous, je ne suis qu'un étranger, un homme à exploiter. À pourchasser, à insulter, à enfermer, à expulser. Je ne suis qu'une menace, un esclave ou un danger. Je ne suis qu'un sans-papier, sans droit, sans dignité.
كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافيا كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت بقلت تعرى وكتافي شاهو صحافيا
Place de la Bastille. Place de la Bastille is the center of a quarter which is busy, particularly in the evening. It is a location filled with history. Situated on the wall, the Bastille was a fortress completed in 1382 to defend the east of Paris. Under Richelieu in the 17th century, the Bastille became a prison. Numerous well-known people were imprisoned there. Let us give a few examples. Voltaire, the Marquis de Sade, Cardinal de Rohan, and the man in the iron mask. Symbol of despotism and royal power, the fortress of the Bastille was stormed by the Parisians, and its 7 prisoners were released. The day afterwards, the people started to destroy it. Some of its stones were given to revolutionary mayors. Enjoy the nighttime entertainment of the district.
Tous ensemble, ouais! Ouais! En plan, salaire, retraite, régularisation!
Place de la Bastille, donc devant l'Opéra, avec à l'affiche la petite renarde rusée de Janek du 25 juin au 2 juillet. Et aujourd'hui, ça va faire 3 semaines, ça fait 20 jours que les ouvriers sans papier occupent ici le trottoir.
On ne sait pas quand ça va finir définitivement, mais on attend le résultat vendredi.
C'est ouais. Comment votre prénom ?
Traoré.
Et pour vous, ça représente quoi d'être ici, place de la Bastille, où la Révolution française a vaincu, a gagné en 1789 ?
On reste, on résiste pour gagner. Parce qu'eux, ils sont restés, ils sont résistés, ils sont gagnés, nous aussi. On a tenté de résister et gagner en fait. L'essentiel, c'est le symbole.
Le symbole ?
Le symbole, voilà. Donc il faut qu'on gagne ici.
Alors, vous êtes de quel pays ?
Moi, je suis mauritanien et j'aimerais bien être là-bas toujours.
Depuis à l'époque, nos arrière-grands-parents se combattent pour libérer la France. C'est pour cela qu'on est venu récupérer ce monument. Parce que la libération de la France, une grande partie, l'Afrique a participé. C'est pour cela qu'on est venu récupérer cette place pour la libération de nous, pour qu'on puisse livrer. Parce qu'on dit que l'esclavage, ça évolue, mais ça n'a pas été du tout évolué.
Aboli,
parce que toujours, nous, moi je trouve que c'est un esclavage. Tu exploites quelqu'un, il n'a aucun droit pour toi. L'esclavage, on dit ça ébolie, mais ça n'a pas ébolie.
C'est-à-dire qu'il faut clairement expliquer aux gens, parce que lorsqu'on leur dit sans papier, beaucoup confondent sans papier, clandestin, entrée illégale et tout. Or, les sans papier, vous n'êtes pas des clandestins. Hein, voilà, vous avez des employeurs, vous travaillez régulièrement. Vous cotisez à la Sécu, beaucoup d'entre vous, presque tout le monde, paye les impôts. Et donc, le fait d'être sans papier, c'est une situation illégale de la part de l'État qui ne veut pas reconnaître des droits. Donc ça, je crois qu'il faut l'expliquer très clairement que pour élargir le soutien qui peuvent venir des autres qui ont des papiers en règle.
Voilà, place de la Bastille, les Africains parlent aux Africains. Celui qui parle là, c'est Likam Bokolo, qui est un écrivain historien congolais, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, professeur à l'Institut des sciences et techniques humaines, des institutions qui sont situées à Paris, et que Antoine a emmené, lui a dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir discuter un petit peu avec les travailleurs sans papier qui occupent les marches de l'Opéra de la Bastille? Eh ben oui, Elika est venue discuter avec ses travailleurs. Et voilà, c'était une journée dans le... Vous avez compris, c'est le journal d'une lutte que nous avons suivi avec Antoine Chao, jour après jour.
Les camarades que vous voyez ici, c'est des travailleurs bien avant d'être émigrés. C'est des travailleurs sans papier, ce qu'on appelle. Parce que quand on vient, on cherche du travail. On ne demande pas t'es d'origine d'où. Ce qu'on demande, c'est est-ce que tu peux travailler. Tu fais une semaine d'essai, c'est acquise, tu peux continuer le boulot. Ils ne demandent pas si tu as des vrais papiers ou si tu as des faux papiers. Auparavant, s'ils ont vraiment besoin des camarades pour travailler, eux-mêmes, ils débarquent dans les foyers, ils demandent telle personne, est-ce que vous pourriez nous trouver des gars qui peuvent bien bosser? Et c'est comme ça qu'ils arrivent à recruter certains camarades travailleurs sans papiers. Par exemple, moi, personnellement, j'ai travaillé dans plusieurs activités. La dernière fois, j'étais dans la logistique, j'ai eu mon diplôme. Je voyais des Français, ils travaillaient comme moi. Dans la logistique, c'était magasinier à risque, contrôle qualité, la digestion, le stockage, tout ça. Et les Français gagnaient 2500 ou plus même. Parce qu'au minimum, cariste, c'est 1500 ou 1400. Moi, je tissais 1100 euros. Je me rappelle de l'avoir demandé, monsieur, essayez de m'augmenter un peu, puisque je travaille comme tous les autres Français. Ils gagnent 2000 et quelques et tout machin, et moi, je gagne 1100, c'est pas normal. Il m'a dit, Mohamed, tu continues de bosser avec ça. Si t'es pas content, t'es viré. Demain, je cherche un autre sans-papier pour te remplacer. Alors,
donc, les entreprises profitent de la situation de non-papier pour vous exploiter. Donc, il y a l'exploitation de l'État qui vous fait verser les cotisations et tout sans vous donner les papiers. Et de l'autre côté, les entreprises vous exploitent. Et c'est d'autant plus paradoxal que certaines de ces entreprises sont des entreprises connues. Monoprix est connu, la RATP, c'est connu. J'ai même vu qu'il y a des gens qui sont en sous-traitance, dans des entreprises en sous-traitance, qui travaillent pour l'État, pour l'Assemblée nationale, pour etc. Donc, c'est pas que ils ne voient pas le problème, ils voient le problème et ne veulent pas le résoudre.
Voilà. C'est pour ça qu'on s'est mis dans la grève. Parce qu'il y en a marre de toutes ces exploitations pour les patrons et d'avoir la peur aux ventes. C'est pour ça qu'on s'est mis dans la grève. Il y en a qui sont mis dans la grève depuis 2008.
C'est une situation de néocolonialisme dans la mesure où les gens qui quittent l'Afrique viennent ici. C'est parce que est créée en Afrique une situation à cause des rapports néocoloniaux sur place qui font que les gens ne trouvent pas du travail là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent là-bas pour venir chercher du travail ici. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait dans le monde d'aujourd'hui la libre circulation de l'argent d'abord. Je rappelle que beaucoup des gens qui sont ici viennent de l'Afrique noire ex-française et que l'argent de ces États est géré ici par le Trésor français. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait libre circulation de l'argent, libre circulation des matières premières, le café que nous buvons, le pétrole, l'uranium, etc. Ça vient de l'Afrique. Libre circulation des idées et des images, on nous balance la télé, on nous balance plein de trucs et on ne veut pas accepter qu'il y ait une libre circulation des hommes. Les hommes, ce n'est pas seulement eux comme ça, c'est du travail qu'ils ont. Le travail qu'ils font ici, ça produit de l'argent. Donc, moi, je trouve absolument scandaleux parce que c'est en fait le système du travail forcé de la période coloniale qui continue maintenant parce qu'on leur nie les droits qui leur permettraient d'avoir les droits égaux à ceux des travailleurs français. Donc, on les met dans la clandestinité et le sans-papier et on les maintient là-bas. Eux, ils expliquent très bien que dans cette affaire, l'État et le patronat, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. On sait que le patronat, ça rigole pas. Chaque fois qu'ils peuvent baisser les prix, ils les baissent. Moi, je trouve ça absolument indigne. Parce que ce qui va se passer, c'est que le 14 juillet prochain, les chefs d'État africains, les armées africaines vont venir avec passeport et visa défiler aux Champs-Élysées avec la République française. Je suis d'accord qu'on fête le 14 juillet, mais en même temps, ces États-là ne font rien pour faire reconnaître les droits de leurs citoyens. Et la France qui est contente de faire bisou-bisou avec les chefs d'État, lorsqu'il s'agit de la force de travail africaine, les considère tout simplement comme des bêtes. C'est vraiment une situation à la fois de néocolonialisme, de post-esclavagisme, qui fait qu'on les considère comme de la force brute de travail et pas comme des hommes. Ça, c'est vraiment scandaleux.
Alors, Elikem Bokolo, on en vient au 14 juillet, justement. Ici, on est place de la Bastille, quand même. C'est pas anodin d'être ici. C'est vraiment, ça a été un des lieux emblématiques de l'émancipation du peuple français. On a abattu la monarchie. pays. Et aujourd'hui, la République française opprime les travailleurs sans papier.
Ben oui, nous sommes là. Il y a la colonne de juillet hein, qu'on peut voir, juillet 1830. Il y a des gens qui sont morts ici pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je pense que les sans-papiers qui sont là ont choisi le bon endroit parce que c'est le même combat. La République se réfère à des valeurs universelles. C'est pas la peine de crier pour le Tibet, pour des pays comme ça qui sont très loin, alors que c'est des problèmes à régler ici, tout de suite. C'est pas des voleurs, c'est pas des criminels, c'est des travailleurs qui demande simplement qu'on leur donne du papier. En plus, on a besoin d'eux, puisqu'ils bossent. On a besoin d'eux. Donc, je pense que il y a vraiment des contradictions que le pouvoir actuel a du mal à gérer. Et moi, je pense qu'ils ont raison d'utiliser les moyens légaux de lutte pour que les dossiers avancent. De toute façon, le patronat a commencé à reculer parce qu'il sait qu'il a besoin de ses travailleurs. Le gouvernement campe sur ses positions, mais je crois que si nous sommes nombreux derrière eux, il va finir par reculer là aussi. Bon, ça n'est pas étonnant que ceux qui mènent cette politique, ce sont aussi les gens dont on sait que à Dakar, ils ont dit dans un discours fameux que les Africains, c'est des moins que rien, ils ne sont pas dans l'histoire, ils répètent les mêmes trucs. Mais là, on voit que c'est des Africains qui sont dans l'histoire, ils produisent des trucs dans l'industrie mécanique, dans le bâtiment et autres, et on ne veut pas leur reconnaître. Ça, c'est, je crois, il faut se battre. Et la place de la Bastille nous montre que les grandes victoires que le peuple a obtenues ici en France, ça s'est obtenu uniquement par le combat. Ça n'a jamais été un don des pouvoirs. Et chaque fois que le pouvoir peut, ben, il récupère ce qu'il a concédé lorsque le rapport de force lui était défavorable.
Voilà, 20e jour de lutte sur la place de la Bastille, sur les escaliers de l'Opéra de la Bastille. Le soir, quand les spectateurs arrivent, ben, il fallait se frayer un chemin parmi les grévistes, parmi les travailleurs sans papier qui étaient là. Les choses se sont bien passées, nous a-t-on dit, mais évidemment, le contraste était particulièrement violent, sauf le jour où il y a eu cette expulsion par les forces armées, par les gardes mobiles, à la demande, dit-on, du directeur de l'Opéra de la Bastille. Mais le lendemain, les gars étaient revenus. Donc ça, c'était une rencontre avec Elika et Mokolo. Et ben, on continue, on en est au 20e jour.
On s'est basé sur tout ça. Et c'est pour ça qu'on se regroupe ici. Il y a des camarades, on fait des relais, bien sûr. Il y a la fatigue, bien sûr, mais il y a la détermination. La détermination, c'est ça le plus important de toutes. Parce que là, c'est notre vie qui en dépend aussi. Quelle que soit la situation ou la difficulté de la chose qu'on vit aujourd'hui, on va la surmonter parce qu'on va aller jusqu'au bout.
Il y a quelque chose qui est en train de changer quand même. C'est que tout à l'heure, je vous écoutais parler à vos amis, vous les appeliez camarades. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience qu'il faut s'organiser en tant que classe sociale pour établir un rapport de force contre le patronat. Vous êtes des camarades, donc syndiqués, etc. Donc c'est un changement dans votre statut de travailleur ici en France.
Jusqu'à qu'on gagne. On sera des camarades et des frères. On a tous un seul problème. C'est pour ça qu'on est des frères et des camarades. Parce que c'est l'union qui fait la force. De toute façon, la situation, elle est simple. Par exemple, en 2008, ils ont dit, il y a un circulaire qui est sorti. Telle personne, il rentre dans les critères, il a ça. Eh ben, justement, moi, j'ai des frères et des cousins qui rentraient dans les critères qui ont été faits en 2008. Mais quand ils allaient à la préfecture, ils nous disaient non. Et quand ils allaient à l'autre préfecture de 95, ils disaient oui. Et quand ils allaient dans la préfecture de 91, ils leur donnaient un récépissé de 3 mois non autorisé à travailler. Alors que c'est les mêmes qui travaillaient dans une seule entreprise. C'est pour ça qu'on n'en veut pas de ces circulaires. On veut que ça soit valable pour tout le monde. Des critères objectifs simplifiés, ce qui permet la régularisation de tous les travailleurs sans papier. On ne demande pas que pour nous ici, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais ce qu'on veut, c'est que ça se termine. Parce qu'une minute de retard pour la régularisation des travailleurs sans papier, c'est une minute gagnée de plus pour les patrons voyous.
Tous ensemble, ouais! Ouais, emploi, salaire, retraite, régularisation.
0-0.
0-0, deuxième mi-temps.
Oui.
Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est le 21e jour. On est jeudi, ça fait 3 semaines maintenant. Devant l'Opéra Bastille, et voilà, il y a un écran de fortune, et c'est la retransmission du match France-Mexique, deuxième mi-temps.
Attention, danger.
Ouais, ça va pas, ça donne la balle, merde.
Ouais, bah ouais, attends,
bien joué. Oui. Allez-y, allez-y. Oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Oui. Allez-y. C'est Malouda qui a tiré. Oh là 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 là.
Il a arrêté, il a arrêté.
Allez, c'est pour la France. Vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, les bleus.
Ah, c'est les Mexicains qui ont marqué. Tout seul devant le goal. Il a dribblé, paf, il a mis le but. Alors, il y en a qui sont quand même contents qui étaient pour le Mexique, mais la plupart sont désolés. Alors là, vraiment, c'est la catastrophe. Voilà, et cette année, on fête quand même les 100 ans de la Révolution mexicaine ici, place de la Bastille. Eh oui, Pancho Villa, il y a 100 ans, prenez les armes et renversez l'autocrate Porfirio Díaz. Et voilà, c'est toutes les révolutions qui sont fêtées aujourd'hui ici à la Bastille en attendant que les sans-papiers obtiennent leur papier, leur régularisation. Nous sommes ici sur la place de la Bastille, en retransmission directe du match France-Mexique en face de l'Opéra Bastille avec tous les sans-papiers qui regardent ce match avec une free jazz party en direct, oui, qui alimente l'ambiance ici sur le match France-Mexique. 1-0 pour le Mexique. La France est en grand danger, tout à fait ici, place de la Bastille, ici les sans-papiers ne sont pas régularisés vendredi demain. La France est en grand danger.
France Inter, 4 juin 2010.
Le 14 juillet, des travailleurs sans papier, ils ont quitté hier la Bastille où ils campaient depuis des mois. Le ministère de l'Immigration accepte de revoir les critères de régularisation.
France Inter.
C'est dans la joie que des centaines de travailleurs sans papier qui campaient depuis des semaines devant l'Opéra Bastille à Paris ont évacué les lieux hier soir. Des ajustements vont permettre d'accélérer le traitement des dossiers. C'est un réel espoir de régularisation pour quelques 6000 personnes. Adama en fait partie. Adama, au micro d'Anne-Laure Chouin.
Au bout de 8 mois de grève, nous, c'est tout ce qu'on attendait. Avoir un texte avec des critères clairs, des critères nationaux, un texte qui serait dans toutes les préfectures. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ces négociations ont été difficiles. Ceci dit, nous avons un texte. Wow !
CGT à Montreuil, on est dimanche 20 juin. Il y a une tribune qui s'est installée, donc la plupart des grévistes sans papier sont là pour prendre connaissance du résultat des négociations qui ont duré 3 semaines, enfin qui durent 8 mois, qui durent depuis 8 mois, qui durent même depuis 3 ans.
Camarades, soit on sait ce qu'on veut, soit on ne le sait pas. Et vous, vous avez prouvé que vous savez ce que vous voulez. Pour récemment, c'est à la place de la Bastille. Du 27 mai jusqu'au 18 juin, ça a fait pleuvoir. Mais n'empêche, vous vous êtes restés sur place, mes frères. Cette victoire, vous la méritez. Mais attention, c'est pas fini. On a gagné une belle étape. Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut rester soudés. Il faut se mobiliser. Il faut garder la pression. On ne relâche rien et on ne lâchera pas. On ira jusqu'au bout, mes frères. On n'obtient rien dans la facilité, mes frères. Il faut se battre. Et on va se battre pour obtenir notre régularisation et la régularisation de tous les travailleurs sans papier. On bosse ici, on vit ici et on reste ici, mes frères. Merci.
L'intérêt pour la NDH, au terme d'un mouvement de grève historique qui aura duré plus de 8 mois, vous avez obtenu, nous avons obtenu satisfaction sur l'essentiel de nos revendications. Le 1er octobre, nous avions demandé au Premier ministre la publication d'un texte avec des critères améliorés, simplifiés, uniformes sur tout le territoire national et objectifs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons ce texte. Il s'agit là d'un véritable tournant dans la politique d'immigration de ce pays. Et ce résultat, il est dû avant tout au courage et à la fermeté des grévistes dans les pires difficultés et dans des secteurs extrêmement difficiles pour l'action syndicale. Eh bien, en cette période où les pressions gouvernementales et patronales se font de plus en plus dures contre le monde du travail, votre lutte constitue un exemple qui va bien au-delà du cas particulier des travailleurs sans papier. Il est un exemple pour tous les travailleurs de ce pays et tous, nous devons en tirer parti. On compte sur vous pour jeudi. On va ici, si, si. On vit ici. On va ici, si, si.
tous. Le reporter mexicain, vous l'avez reconnu, c'est Antoine Chao. Pour la prise de son et le montage, merci à Maxime Amer et Maxime Baudet. Merci à Ilika Mbokolo et Raymond Chauveau et à tous les travailleurs sans papier. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Thomas Eliès. Coyen Guyen et Raphaël Moutard de réaliser cette émission modeste et géniale. Assisté d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet. Attends vos messages sur le répondeur de la Basse, j'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Maf Assurance, bonjour.
Rebonjour, je voudrais être sûr, dans votre pack Maxi Tranquille,
oui.
Il y a bien un crédit automoto, une assurance tout risque avec en plus une assistance panne 0 km offerte jusqu'à fin 2011 et l'extension de la garantie valeur d'achat gratuite sur toute la durée du prêt jusqu'à 48 mois.
Vous savez tout?
Eh oui, Miss Maf.
C'est la Maf.
Offre soumise à conditions réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2010. Prêt automoto de 1600 à 45 000 euros distribué par Maf IOB de ma banque. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un prêt d'argent. Conditions détaillées au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, ben, j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez arrêter de fumer? Appelez Tabac Info Service au 3989 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 3989, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Voilà, demain, en principe, nous parlerons du G20, en préparation du G20, avec des gens d'attaque, avec Dominique Plion, avec Suzanne George, avec Aurélie Trouvé et James Galbraith, un économiste américain. Et puis ensuite, au cours de cette semaine, on essaiera de parler des retraites. Il y a une grande journée, vous le savez, jeudi prochain. Puis vendredi, ben, ce sera la fin de la saison de La Basse, si j'y suis. Il est 16h sur Inter. On se retrouve donc demain à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Tessa Gromane. Salut.
Cinq buts à zéro, c'est le score final de la rencontre Portugal-Corée du Nord. On parle bien sûr de la Coupe du Monde de football. Autant dire que les Portugais ont littéralement écrasé les Nord-Coréens tout à l'heure au Cap. Du coup, le Portugal a quasiment assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Dans le groupe H, le Chili joue depuis quelques instants face à la Suisse. Tout à l'heure à 20h30, l'Espagne affronte le Honduras. Quant aux Bleus, ils se sont entraînés ce matin à la veille de leur match contre l'Afrique du Sud. Et ce soir, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, s'exprimera après sa rencontre avec Jean-Pierre Escalette, Raymond Domenech et Patrice Evra au centre du feuilleton médiatico-sportif qui dure depuis 3 jours. En mai dernier, la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, avait lancé une enquête administrative pour faire la lumière sur les dossiers égarés dans l'affaire des disparus de l'Isère. Visiblement, cette enquête a payé. Des dossiers d'instruction ont été retrouvés dans les archives du tribunal de grande instance de Grenoble. Entre 1983 et 1996, 9 enfants ont été tués ou portés disparus dans la région de l'Isère. La découverte de ces documents va permettre de relancer l'enquête qui était sur le point de s'achever sans grand succès. Un nouvel espoir pour les famille des victimes, 5 filles et 4 garçons âgés à l'époque de 5 à 16 ans. La préfecture du Var lance un appel aux dons après les intempéries de la semaine dernière. Il s'adresse aux associations, aux particuliers et aux entreprises. Ceux qui verseront de l'argent bénéficieront d'une réduction d'impôts. Les dons peuvent être faits par chèque ou par virement sur le compte de la Trésorerie Générale à la Banque de France. 2 experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique interdits de visite en Iran. Les autorités du pays les accusent d'avoir divulgué de fausses informations sur son programme nucléaire. Ils auraient en particulier annoncé la disparition d'un équipement clé d'une usine de Téhéran. Le nom et la nationalité des 2 inspecteurs sont restés secrets. Les Nations Unies, qui soupçonnent l'Iran de chercher à se doter de l'arme nucléaire sous couvert de son programme civil, ont récemment durci leurs sanctions vis-à-vis de Téhéran. 2 milliards de dollars, c'est ce que BP a dépensé pour lutter contre la marée noire dans le golfe du Mexique depuis le 20 avril dernier. Annonce faite aujourd'hui par le géant pétrolier. Et la note va considérablement s'alourdir puisque le groupe britannique s'est engagé à indemniser les victimes de la catastrophe écologique à hauteur de 20 milliards de dollars. Ce fonds sera géré par Kenneth Feinberg, l'homme qui s'était occupé du fonds mis en place pour les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud de la Chine depuis une semaine ont fait 175 morts et une centaine centaines de disparus. Plus d'un million de personnes a dû être évacuées des zones inondées. Et ce n'est pas fini. Dans les prochains jours, de nouvelles intempéries sont attendues dans les mêmes régions. Et puis on termine avec du tennis, avec l'ouverture du tournoi de Wimbledon. En ce premier jour, qualification de la Française Marion Bartoli et des Russes Nadia Petrova et Vera Zvonareva, entre autres. Côté homme, Roger Federer, tenant du titre, affronte en ce moment le Colombien Alejandro Falla sur le court central.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion. Demain à 19h20.
Deux invités ce mercredi, François Baroin, ministre du budget, face à Michel Sapin, des socialistes et ancien ministre de l'économie et des finances. L'État peut-il faire des économies? Comment réduire les déficits publics? Rendez-vous avec François Baroin et Michel Sapin dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, demain à 19h20.
France Inter, partenaire de l'exposition Dans le sillage des requins à l'Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Plongez dans l'univers fascinant des requins, de leurs cousines raies et chimères. Découvrez poissons vivants, naturalisés et fossiles. Une exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle. À retrouver dans le programme de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter. La différence.
Il est 16h04. On retrouve Frédéric L'Odéon avec son Carrefour de L'Odéon.
Bonjour. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce jour de la fête de la musique et de l'été. L'été, ça se voit moins, bien sûr. Fête de la musique tout de suite avec une charmante trompettiste déjà citée ici. Alison Balsom, elle est blonde, elle regarde le ciel sur son disque EMI Classics. Elle tient cette trompette puissante qu'elle a réussi à maîtriser parfaitement. Et peut-être que Vivaldi, violoniste évidemment avant tout, aurait accepté, vu le charme de la belle et son talent, qu'elle transcrive ce qu'elle a fait, quelques concertos du prêtre roux, comme on disait autrefois. Voici le presto du concerto. Concerto en la mineur d'Antonio Vivaldi. Thank you. presto d'un concerto, la mineure écrit d'abord pour le violon par Antonio Vivaldi, interprété, kidnappé, on peut le dire, par Alison Balsom, qui en fait bon usage à la trompette avec le Scottish Ensemble. Et vous pourrez gagner ce disque où il y a des concertos baroques pour la trompette, publié chez EMI Classics, si vous appelez le numéro de France Inter dès maintenant. C'est juste une question de rapidité et de chance, donc vous connaissez par cœur ce numéro, mais je le cite quand même. 01 45 24 7000, 01 45 24 7000, pour gagner le disque d'Alison Balsom, il y en a 50. Donc, et je vous propose maintenant un concerto de Tommaso Albinoni. Albinoni l'avait composé pour le hautbois, mais même réflexion que tout à l'heure. En ce qui concerne Vivaldi, ben voilà, le hautbois est tout à fait magnifique et charmant, mais la trompette se débrouille bien à travers les mêmes méandres.